Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une information, RMC, ce matin, une plainte déposée contre l'hôpital Cochin à Paris. Pourquoi ? Parce qu'une patiente a été violée par un sans-papier qu'il avait repéré dans un bar. À la une ce matin, Adrien Quatennens qui ne retournera pas à l'Assemblée après de nouvelles révélations de son ex-femme. Et puis une nouvelle surprise à la Coupe du Monde de football, le Japon qui bat l'Allemagne de 2-1.
Et c'est une affaire qu'RMC vous révèle ce matin. Une plainte est déposée contre l'hôpital Cochin à Paris.
Plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après l'agression, c'était fin octobre, d'une femme de 34 ans par un autre patient, un sans-papiers, sous le coup de deux obligations de quitter le territoire, qui aurait repéré sa victime en dehors de l'hôpital, avant qu'elle ne soit hospitalisée, à la sortie d'un bar. Affaire que nous révèle Guillaume Bier, le chef du service police-justice à RMC.
Victime d'un malaise et d'une chute à la sortie d'un bar, Isabelle perd connaissance. Mais avant l'arrivée des pompiers, un homme rôde et la regarde avec insistance, d'après des témoins. Une heure plus tard, c'est lui qui simule un malaise au même endroit. Les pompiers reviennent et le conduisent, comme la jeune femme auparavant, à l'hôpital Cochin. Là, il cherche et retrouve Isabelle, qu'il est donc accusé d'avoir violé après lui avoir volé sa carte bancaire. Au-delà des faits, l'une des avocats de la victime, maître Laura Abécassis, porte plainte aujourd'hui contre l'hôpital Cochin.
Personne n'imagine qu'on puisse commettre des faits aussi graves de nature criminelle dans un établissement public, dans le service public. C'est inimaginable. Alors évidemment, cette plainte sert à vérifier, en tout cas, s'il y a eu un manquement, que ce soit de l'établissement public ou du personnel, pour assurer la sécurité des patients et notamment de ma cliente.
Quant au suspect, rapidement arrêté par les policiers, c'est un homme de 22 ans, sans papier. D'après nos informations, il était sous le coup de deux ordonnances de quitter le territoire, sous deux identités différentes. Il a été mis en examen et écroué.
Il est 6h32 sur RMC. Adrien Quatennens ne retournera pas à l'Assemblée. Procédure de retour était pourtant en cours, mais elle a été annulée hier soir. Décision des Insoumis. Après les nouvelles révélations dans cette affaire de violence conjugale, l'ex-femme du député est sortie de silence hier pour expliquer qu'elle subissait violence et colère depuis plusieurs années. Accusation mensongère, répond l'avocate d'Adrien Quatennens, qui est convoquée le mois prochain devant la justice pour une procédure de plaider coupable. C'est comme ça que ça s'appelle, Marion Dubreuil. Est-ce que ces nouvelles révélations sont de nature à alourdir le dossier?
Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de changement d'orientation du côté du parquet de Lille. Adrien Quatennens reste convoqué le 13 décembre pour une procédure de plaider coupable pour violence conjugale. Il sera donc seul face à une procureure pour négocier une peine. Le point final d'une procédure pénale au cours de laquelle le député LFI a reconnu avoir giflé son épouse et lui avoir envoyé de nombreux SMS. Mais le parquet de Lille avait-il connaissance de l'ensemble des accusations portées par Céline Quatennens? Cette dernière évoque dans un communiqué des violences physiques et psychologiques exercées depuis plusieurs années. Céline Quatennens, qui ne souhaitait pas déposer plainte contre son mari au départ, a-t-elle tout dit en audition face aux policiers? Il n'y a pas de nouvelle affaire, Quatennens, affirme de son côté l'avocate du député, qui dénonce des accusations mensongères.
Les Insoumis qui veulent faire interdire la corrida, proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée, mais ce ne sera pas le cas, ce n'est pas la priorité, disait Emmanuel Macron hier devant les maires, le président qui a pris position dans ce dossier. Le gouvernement va renforcer la sécurité dans les transports en commun. Romain Poiseau, pour RMC, les effectifs de policiers et de gendarmes vont doubler d'ici les Jeux Olympiques de 2024. On se prépare en fait à l'arrivée massive de supporters.
1835 policiers et gendarmes en plus seront prochainement déployés dans les transports. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. 200 seront affectés rien qu'à Paris, le reste en province. Il s'agira en fait d'unités spécialisées dans huit grandes agglomérations: Bordeaux, Rennes, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse. Des unités de 60 à 90 policiers pour surveiller les bus, les métros ou les tramways. Dans les villes moins importantes comme Angers, Amiens ou Lens, il y aura 37 brigades de 10 à 20 agents qui sillonneront les transports en commun. Et pour faciliter les dépôt de plainte en cas d'agression, des commissariats seront installés directement dans certaines gares. Même si les chiffres de la délinquance dans les transports sont en baisse, selon le ministre de l'Intérieur, moins 8% sur les 10 premiers mois de l'année, Gérald Darmanin souhaite obtenir de meilleurs résultats en vue des JO, surtout dans les grandes agglomérations.
Je vous signale que le trafic des trains sera interrompu au moins jusqu'à samedi entre Narbonne et Castelnaudary après le dérèglement d'un train de marchandises hier. Ça concerne notamment les TGV Toulouse-Lyon et les intercités entre Marseille et Bordeaux.
RMC Coupe du Monde 2022.
Alors ce n'est pas un jour férié au Japon, mais ça pourrait, comme en Arabie Saoudite, parce que les Japonais ont réalisé un nouvel exploit dans ce mondial en battant l'Allemagne 2-1 hier après-midi.
J'avais imaginé qu'on pouvait gagner, mais le scénario du match est incroyable. C'était génial et je me sens comme sur un nuage.
C'est le plus beau but du mondial et c'est le plus beau jour de ma vie. Nous avons attendu ça pendant 4 ans. Vive le Japon !
Voilà, les Japonais fiers de leur équipe. Hier soir, la Belgique a péniblement battu le Canada 1-0. L'Espagne a impressionné 7-0 contre le Costa Rica, premier carton du mondial. Le Portugal de Ronaldo et le Brésil de Neymar feront leur entrée en piste aujourd'hui. Les Bleus préparent leur match de samedi. 17h, ce sera contre le Danemark. Les remplaçants, tiens, jouaient hier un match amical. Ils ont gagné 4-0 contre une équipe qatari. Raphaël Varane était bien là. C'est la bonne nouvelle. Et on constate d'ailleurs avec les chiffres des audiences que les Français, finalement, ne boycotte pas cette Coupe du Monde controversée au Qatar. On en a beaucoup parlé. 12,5 millions de Français devant le match des Bleus. C'était mardi, comme il y a 4 ans, en fait, pour le match d'ouverture. Plus de 5 millions, même pour le tout premier match de la compétition. Ça, c'est mieux qu'en 2018. Nicolas Traîneau a trouvé pour RMC des Français qui avaient prévu de boycotter la Coupe du Monde, mais qui finalement ont renoncé.
Tout a basculé devant le match des Bleus. Le colocataire de Maïssa allume la télé alors qu'elle boycottait le mondial. Et c'est la faute.
J'ai craqué, j'ai regardé la France. J'ai regardé le Maroc jouer aussi. Non, j'assume. Quand t'aimes le sport, t'as envie de regarder. Je pensais que j'allais tenir, au moins j'allais pas regarder les poules, mais non, j'y ai craqué.
Complètement craqué, même la fan de foot va quasiment tout regarder avec, c'est vrai, une petite pointe d'amertume.
Tu gardes dans un coin de ta tête quand même, quand t'as fini de regarder le match, tu dis ah oui, quand même, les conditions d'organisation et tout ça, c'est quand même difficile.
Elle n'est pas la seule. Baptiste, lui, ne s'en vante pas. Il assure s'être mis dos à l'écran du bar et n'avoir rien vu.
À part quand il y a les buts. Et les actions.
Bon, rien vu, mais un petit peu quand même. Arnaud s'est lui aussi pris au jeu.
De voir Olivier Giroud qui égalise un record, le fait qu'il puisse le dépasser, c'est des choses qui nous donnent un peu envie de voir la suite.
Dans le camp de ceux qui boycottent, Thomas ne cache pas sa déception.
Je pensais qu'on serait plus nombreux à être dans cette dynamique, de se dire on veut montrer un signe fort, un foot business, ça fait aucun sens cette histoire du Qatar. Plus ça va avancer, plus ça va être entre guillemets une vraie fierté aussi.
Pour le prochain match des Bleus, Thomas sera en forêt sans écran pour résister à la tentation.
Voilà, Nicolas Traîneau avec Pierre Bourgès pour RMC.
En fait, c'est comme Ulysse, quoi. Il va s'accrocher à un tronc d'arbre dans la forêt pour être sûr.
Et en forêt, on capte RMC.
Exactement. On a envie de lui dire vraiment, si vous craquez, vous pouvez toujours écouter le match avec Jean Rességuier. Le Quintet, Quentin.
Le Quintet, à côté de la forêt de Vincennes, 13h50 sur RMC Découverte.
Il y a une forêt à Vincennes.
C'est un bois.
Bon, allez, oui. Le bois. Le 16, le 13, les pronostics de la Dream Team pour RMC. Le 16 en favori, Flower Bowl. Le 13 en outsider, Fée de Rangeval.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Faut-il interdire la corrida au nom du bien-être animal ou alors la préserver au nom des traditions? La question fera l'objet d'un débat aujourd'hui à l'Assemblée. Et on le commence ici sur RMC dès ce matin avec vous. J'attends vos témoignages, votre point de vue en débat au 32-16.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Ce matin, Marion Dubreuil, vous nous racontez comment un ado a mis en scène son propre enlèvement dans son lycée à Nantes.
Oui, il est 14h ce lundi quand un homme surgit dans une classe de première d'un lycée du centre-ville de Nantes, quelques minutes seulement après la sonnerie. Il est cagoulé, habillé en noir et se dirige immédiatement vers un élève assis au premier rang. Il lui enfile un sac sur la tête avant de le traîner de force en dehors de la salle de classe. Sous les regards médusés de ses camarades et de son professeur, personne n'a eu le temps de réagir, d'après le quotidien Presse Océan. Immédiatement averti, la direction du lycée prévient la police et cherche à joindre les parents de l'adolescent. Des professeurs et surveillants fouillent le lycée de fond en comble pour tenter de retrouver l'adolescent. En vain, tous sont persuadés que le lycéen est en danger, jusqu'à ce que l'élève se présente de lui-même au bureau de la vie scolaire. Un peu penaud et dépassé par les conséquences de sa disparition, il explique qu'il s'agissait d'une blague pour son anniversaire. Les policiers n'ont visiblement pas le même sens de l'humour, puisque l'adolescent a été conduit au commissariat pour être interrogé. Son complice, un jeune majeur, pourrait être poursuivi pour intrusion dans un établissement scolaire en vue de troubler la tranquillité.
Le récit de Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est une sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous.
C'est votre avis.
C'est votre avis et votre avis, il compte chaque jour sur RMC. Ce matin, l'invité du face-à-face à 8h30, ce sera le député de la France Insoumise, Aymeric Caron. L'ancien journaliste, défenseur de la cause animale, a déposé un texte pour interdire la corrida. Il sera débattu à l'Assemblée aujourd'hui. Alors j'attends vos témoignages tout au long de la matinale et vos questions pour le député de Paris qui sera donc à 8h30 face à moi. Interdire ou non la corrida, le sujet divise à peu près partout. Il est au carrefour des traditions françaises d'un côté et du bien-être animal de l'autre. Voilà ce qu'en disait hier Emmanuel Macron, interrogé au moment de son déplacement au Congrès des maires.
Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois, qu'on prenne en compte nos spécificités, nos cultures locales, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange.
Bon, c'est un peu duel en même temps. C'est-à-dire que... Voilà.
Bah, même s'il dit, il n'y aura pas d'interdiction. Il ne peut pas chez personne.
Mais il dit dès le début qu'il n'y aura pas d'interdiction.
Oui, mais il passe 30 secondes à dire condition animale, sauf
voilà,
animale.
C'est ça. C'est
mais on ne va pas interdire.
C'est voilà. Du et en même temps. Exactement. C'est quand même du et en même temps très, très macronien, non, Nicolas?
Oui, alors on peut remarquer qu'il dit, il n'y aura pas d'interdiction. Il me semble que c'est l'Assemblée nationale qui doit en décider, non?
Bah,
il me semble qu'il y a une séparation des pouvoirs et qu'il y a un pouvoir législatif. Et que si la mesure était adoptée, la mesure d'Américain était adoptée, il y aurait interdiction.
Et oui. C'est assez étonnant qu'il dise ça la veille, alors qu'il y a une liberté de vote. Précisément sur cette question-là, normalement dans le groupe Renaissance, dans le groupe macroniste, ça ressemble à une consigne de la part du président de la République. On en débat avec vous tous. Jean-Jacques est avec nous, qui nous a appelé au 3216. Jean-Jacques Dugard, bonjour.
Bonjour, bonjour. Pauline,
comment ça va, Jean-Jacques?
Ben, ça va très bien, ça va très bien. Moi, j'aime bien la liberté individuelle. Moi, je suis attaché à ça. Alors après, interdiction, pourquoi pas? Alors, je suis allé voir des corridas.
Oui.
Je suis pas fan. S'ils l'interdisent, ils vont l'interdire. Mais ce qui me dérange, c'est la privation de choisir. Quoi. Je veux dire, qu'est-ce que il y a quoi? Il doit y avoir 2000 taureaux qui doivent être abattus
1000.
En France, à peu près 1000.
1000 par an, ouais.
Et il y a pas loin de 5000 bovins de tués. Donc, ce qui me dérange encore le plus, c'est qui le porte. Caron, c'est un antispéciste, c'est un vegan. Et au-delà de la corrida, il va avoir un truc derrière, hein, on le voit avec Rousseau, ça va être le foie gras, ça va être la chasse, ça va être... Mais à ce moment-là qu'on interdise les courses hippiques...
D'ailleurs, il le dit lui-même, Jean-Jacques. Hein. Il dit, Aymeric Caron, qu'au fond, le plus simple au départ, c'est d'interdire la corrida, parce que pour interdire la corrida, il suffit d'un article de loi, et c'est interdit du jour au lendemain dans l'ensemble du territoire. Alors qu'effectivement, son but ultime serait quand même qu'il n'y ait plus d'animaux tués, tout simplement. Jean-Jacques, vous en avez vu des corridas, vous disiez.
Oui.
Ressenti quoi? Vous avez ressenti quoi dans la
rue? Alors, je ne suis pas un aficionado, déjà. Mm-hmm. Donc, il y a visiblement des personnes, animes, hein, évidemment, qui sont spécialisées. Alors, il y a des passes, il y a des faenas, il y a des carolines, des machins, des trucs. Moi, j'y connais que dalle, mais je ne voulais pas non plus mourir idiot. Et pour en parler, il faut y aller. Mais je respecte, moi, j'ai vu, d'ailleurs, dans la file d'attente, il y avait des anti-corridas qui, bien évidemment, eux, voulaient faire le coup de poing. Et c'est ce qui me dérange, c'est qu'on est toujours dans la violence par rapport, si on est contre.
Alors, ce que vous dit Aymeric Caron, c'est que la violence, elle est contre le taureau.
Oui, non, mais elle est contre le taureau et eux sont contre les hommes. Donc, c'est formidable. Mais bon, de toute façon, ce jeune homme que je respecte pas vraiment, enfin bref, on peut faire un débat.
Non, après la question que vous dites, Jean-Jacques, c'est-à-dire cette question, et c'est un des arguments de ceux qui voteront contre sa proposition tout à l'heure, et c'était l'argument d'un Fabien Roussel qui était mon invité hier, qui est le patron du Parti communiste, qui a beau faire partie du même groupe politique, la NUPES, votera contre cette proposition de loi, parce que précisément, d'abord, un, il estime que c'est pas la priorité, qu'aujourd'hui la priorité c'est les questions de pouvoir d'achat, que en faire une priorité absolue n'est pas la bonne chose, mais aussi on le sent bien parce que précisément il veut défendre un certain nombre de traditions culinaires et qu'il estime que cette première interdiction de la corrida, c'est le début de l'interdiction ensuite du foie gras ou même tout simplement de la viande. Jean-Jacques, restez avec nous. Il y a Sandrine qui nous appelle de Vence, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour madame.
Sandrine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la corrida?
Alors déjà, le débat pour ou contre m'exaspère.
Alors c'est comme ça que la question sera posée à l'Assemblée.
Oui, il n'empêche que bon, tout noir, tout blanc, ce côté manichéen, c'est de la politique politicienne déjà. Mmh. Alors, moi j'ai vécu en Espagne, en Andalousie. Oui. Oui. À Grenade et à Séville, les arènes du point de vue architectural sont magnifiques. Oui. Je n'ai jamais assisté à une corrida parce que pour moi c'est insupportable. Oui. En revanche, l'argument de la tradition, de la culture, je peux l'entendre. Mm-hmm. Et moi la question que je pose, c'est qu'au-delà de cette espèce d'affrontement, puisqu'après on peut aller aussi vers les batteries de porc, de volaille, de c'est aussi insupportable. Et là, c'est une industrie. Hein. Mmh. Donc, moi, je pose la question. J'ai aussi vécu au Portugal. Oui. Au Portugal, il y a une alternative. Il n'y a pas de mise à mort.
Il n'y a pas de mise à mort. Alors, c'est le cas d'ailleurs dans toute une partie des départements du sud-ouest de la France. Hein. Les courses landaises, par exemple, dans les Landes.
Oui, il y a les courses de taureaux. C'est de la corrida en arène.
Là, c'est de la corrida en arène, mais qui n'a pas de mise à mort. Donc, c'est quand même, ça ressemble plus à une forme de danse.
Il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de banderille. Mmh. En revanche, la tradition, le costume du torero, tout ça est extrêmement respecté. C'est magnifique d'ailleurs, parce que là, en revanche, au Portugal, j'y suis allée.
Oui.
C'est magnifique. Et à la fin de la corrida, enfin il y a un moment, je ne sais plus si c'est à la fin, où vous avez ce qu'ils appellent les apprentis, ce sont des très jeunes hommes qui là affrontent le taureau. Alors il y a aussi la mise en danger du torero. Hein,
ça, bien sûr.
Voilà, il y a quand même ce côté courage. Moi ça m'a terrifié. Hein, il faut un courage énorme. Mais il y a un moment où vous avez des apprentis qui sont de jeunes hommes qui en fait affrontent le taureau de face.
Oui.
Le taureau fonce sur eux et en fait ils font des sauts de cabri, mais carrément des sauts de cabri.
Ouais.
Et ils sautent par-dessus l'animal.
Ouais, ça c'est comme dans les courses landaises. Hein. C'est aussi un saut au-dessus de l'animal.
C'est encore pire. Hein. C'est encore plus impressionnant.
Et ça vous a plu. C'est-à-dire que Sandrine, je trouve très intéressant votre point de vue parce que vous commenciez en disant ça peut pas être forcément manichéen et vous en faites la démonstration. C'est-à-dire que pour vous c'est insupportable une mise à mort de taureau et vous n'avez pas souhaité assister à une corrida avec une mise à mort. En revanche, vous avez, et on le sent même encore dans votre voix, vous avez ressenti l'émotion et une forme de fascination pour ce combat, cet affrontement entre l'homme et l'animal, ça clairement.
C'est affrontement, il y a l'art, il y a les passes, il y a les costumes, il y a l'ambiance de l'arène, mais il n'y a pas la mise à mort, il y a le courage du torero, de ces jeunes hommes qui sautent par-dessus le taureau, tout ça respecte la tradition, c'est beau, c'est très courageux, mais en finalité, il n'y a pas la mise à mort.
Mais il n'y a pas la mise à mort.
On n'essaie pas de trouver cette alternative entre les deux, plutôt que ce débat qui est ou tout noir ou tout blanc.
Et ça va être très intéressant d'entendre Aymeric Caron sur ce point-là, parce que Sandrine trouve une solution, une alternative où il n'y a plus la mise à mort. Est-ce qu'Aymeric Caron est prêt à l'entendre ou est-ce qu'il va vous dire « Ah bah non, mais rien que sauter par-dessus le taureau, c'est le maltraiter ». On va voir justement sa position sur ces solutions. Est-ce qu'il est extrémiste dans ses positions ou pas ? Moi, j'ai hâte d'entendre sa réponse.
Merci Sandrine, merci Jean-Jacques. Et n'hésitez pas, évidemment, on poursuit ce débat au 32-16. Donnez-moi aussi vos arguments pour ou contre, puisque je serai avec Aymeric Caron donc à 8h30. Il est 6h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le portrait du jour, Nicolas.
C'est Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute française.
Et vos histoires, Charles ?
On va parler d'une célèbre raie, la raie du Morbier.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52, bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC. Je vous donne le programme de la suite de la matinale. 7h10, révélation exclusive RMC. Une jeune femme porte plainte contre l'hôpital Cochin à Paris. Elle y a été victime d'un viol alors qu'elle était hospitalisée. Son agresseur présumé était sous le coup de deux obligations de quitter le territoire, deux OQTF. L'avocat de la jeune femme est le témoin du jour avec le récit de Guillaume Biais. Ce sera dans 20 minutes. Et puis 7h40, le criminologue Alain Boer nous dévoile sur RMC ses pistes pour sécuriser les stades de foot. Il vient de rendre un rapport commandé par la Ligue de football professionnel. Il nous en expose les premières conclusions. Il est 8h53.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
6h53, bien sûr. Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Sophie Adnaud, la nouvelle astronaute française.
Oui, au départ, ils étaient 22 523 candidats qui rêvaient de devenir astronaute. Et à l'arrivée, ils ne sont plus que 5, dont une française. C'est la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne dévoilée hier. Et c'est un rêve de petite fille qui devient réalité. C'est avec ces mots que Sophie Adnaud a commenté la nouvelle. Pour être choisie parmi tant de candidats, il fallait un CV en béton, et c'est le cas. Sophie Adnaud a fait une école d'ingénieur à Toulouse, puis elle a obtenu un diplôme au très prestigieux MIT américain, puis elle est rentrée chez Airbus. Elle travaillait dans un bureau à la conception des cockpits d'hélicoptères. Mais à ce moment-là, elle a décidé d'inverser l'équation, c'est-à-dire de faire des cockpits son bureau. Elle est donc entrée dans l'armée de l'air, elle est devenue pilote de sauvetage de combat, spécialiste en opérations en milieu hostile. Elle a été deux fois en Afghanistan, elle a le grade de lieutenant-colonel, puis elle est devenue ensuite la première femme pilote d'essai sur hélicoptère. Elle cumule 3000 heures de vol sur 22 engins différents. Mais ça ne suffit pas. Pour devenir astronaute, il faut aussi être polyglotte. Et donc, elle parle français, anglais, allemand, russe et espagnol. Il faut aussi, pour être astronaute, être sportif. Elle est parachutiste, diplômée de plongée sous-marine, alpiniste, professeur certifié de yoga.
Je suis fascinée. Elle est extraordinaire, cette femme.
Et à 40 ans, elle est aussi mère de famille. Elle a un petit garçon.
Inouï. Et hier, elle a rendu hommage à ses modèles.
Oui, Marie Curie, prix Nobel, franco-polonaise. Valérie André, médecin, première femme pilote d'hélicoptère. Caroline Aigle, première femme pilote de chasse, morte trop tôt. Et puis, bien sûr, Claudie Nuret, première et seule astronaute française jusqu'à présent. Sophie Adnaud avait 14 ans lorsque Claudie Nuret est allée dans l'espace. En attendant son tour, la nouvelle astronaute française va rejoindre le camp d'entraînement européen à Cologne au printemps prochain. Elle devrait ensuite faire un séjour dans la station spatiale internationale vers 2026. Et puis ensuite, tout est possible. Sophie Adnaud peut raisonnablement espérer marcher un jour sur la Lune.
Magnifique. Mmh. Franchement, quel parcours inouï. Je suis quand même assez fascinée par une chose, c'est qu'avec une telle exigence, il y a quand même eu 22 523 candidats. Mmh. Ça veut dire qu'il y a eu 22 523 personnes de ce calibre-là.
À peu près, ouais.
Extraordinaire. 6h55, c'est les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
On retombe sur terre avec vous, hein, Charles, si je peux me permettre, parce qu'on va parler fromage ce matin et l'arrêt du Morbier qui est désormais protégé.
Ouais, on connaît tous hein, le Morbier, ce fromage du Jura, avec en son cœur cette raie cendrée qui fait sa renommée, une marque visuelle, une raie centrale et horizontale qui fait l'identité du Morbier. Eh bien, le syndicat interprofessionnel du Morbier a obtenu gain de cause. Et oui, c'est une victoire. Son AOP, qui protégeait déjà la recette, va être élargi à cette raie centrale, trop souvent copiée et plagié. Alors, ce trait du Morbier n'est pas lié à un processus de moisissure, contrairement à ce que beaucoup pensent. Non, mais à la présence d'une fine couche de charbon végétal. La tradition remonte au XVIIIe siècle. Il n'est donc plus question aujourd'hui de la copier ou de la plagier. Une victoire pour le syndicat du Morbier, qui rappelle, je cite, que cette raie est unique et inimitable.
Ça vous a plu cette histoire, hein, Charles, je sens.
Le plaisir de pouvoir dire le mot raie 22 fois en une minute. J'avoue que je ne l'ai pas boudé. Ouais.
Je vous demande pardon, oui. Vraiment, nous sommes sur RMC et RMC Story, tout cela est très digne.
Et c'est factuel.
C'est l'arrêt.
L'info.
Et toujours de l'info. Il est 6h56, à tout de suite justement pour la météo et le journal de 7h.